Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Direct News, le podcast. Aujourd'hui, une émission enregistrée en octobre 2012 sur l'antenne de Radio Cité Genève, dans laquelle je recevais le navigateur français Michel Desjoyeaux, Mitch Desj, ou encore le professeur, autant de surnoms pour ce marin d'exception, né à Concarneau le 16 juillet 1965. Vainqueur, entre autres, du Vendée Globe à deux reprises en 2001 et 2008, de la Route du Rhum en 2002, sans oublier le sacre de marin de l'année en 2001, 2007 et enfin 2009. Le professeur revient dans cet entretien sur ses regrets, peu nombreux, son regard sur la course au large, son admiration pour son compatriote et néanmoins ami Loïc Perron, sur sa victoire en 2011 du Vulcain Trophy, le challenge des D35 sur le lac Léman, et enfin sur sa vie personnelle où l'on apprend que la voile lui a permis de vaincre sa grande timidité durant son enfance. Mais pour commencer, eh bien Michel, si tout cela était justement à refaire, referiez-vous la même chose ?
Je crois qu'on essaierait sans doute faire mieux encore, c'est certainement possible. En tout cas, c'est la démarche qui m'a animé jusque-là, d'avancer et d'essayer de progresser. Avec parfois des revers de médaille, mais ça fait partie du jeu aussi, et justement ça permet de rebondir et de continuer d'avancer.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, Michel Desjoyeaux? Là où la chatte a mal aux pieds, si vous voulez dire, où elle a eu mal aux pieds.
Ouais, il y en a un petit peu partout, vous les voyez pas toujours, mais je crois que c'est aussi un peu un leitmotiv chez un compétiteur que de voir ce qui va pas et de ne se satisfaire que trop peu de ce qui a été bien fait. Il y a quand même forcément des choses qui ont été mal faites et donc qu'on peut améliorer.
Des regrets, par exemple, là au milieu de ce palmarès, est-ce qu'il y en a ?
Les plus récents sont l'abandon sur la Barcelona World Race quand on a cassé le mât au bout d'un mois de course. Ça faisait très longtemps que j'avais pas abandonné une course sur une casse matérielle importante. J'ai même d'ailleurs assez peu abandonné et très peu souvent. Donc forcément, ça fait un peu plus mal, surtout quand en plus c'était un bateau qui était tout récent et dans lequel j'avais mis beaucoup d'énergie. Et forcément, la déception n'a été que plus grande.
L'abandon, évidemment, c'est ce qu'il y a de pire pour un
marin. C'est ce qu'il y a de pire, Ce qu'il y a de pire, c'est de ne pas ramener son bateau et de se retrouver un peu amputé d'une partie de son travail,
pas pouvoir terminer la course.
Et bon, on a eu la chance parce que ça nous est arrivé, on était à 600 000 de l'Afrique du Sud, du Cap de Bonne-Espérance. On est rentré par nos propres moyens à la voile et à bonne vitesse puisqu'on avait un bout de mât qui était resté en l'air. Il n'empêche que la course, elle s'arrêtait net en quelques secondes et ça fait mal.
Et là, on culpabilise, on est comment ?
C'est un peu tout qui se bouscule parce que c'est d'abord une grande déception pour soi-même, pour son coéquipier qui était François Gabart, mais aussi pour tous les gens qui avaient œuvré sur ce projet. Il faut se souvenir que ce bateau-là, on l'avait construit en 6 mois et demi. Et paradoxalement, c'est pas parce qu'on l'a construit vite qu'il a été mal fait. Et du coup, c'est un peu toute cette énergie-là qui avait été mise dans la bagarre et qui se retrouve anéantie. Donc c'est toute la déception personnelle, mais qui ne fait qu'être amplifiée par tout le contexte.
On l'a dit au début, vous avez probablement l'un des plus beaux, ou peut-être tout simplement le plus beau palmarès, en tout cas de course au large en solitaire. Vous partagez cette opinion ?
C'est pas moi qui l'ai dit. Je pense qu'il y a quelques très belles choses. Maintenant, il y a d'autres marins qui ont fait des très belles choses aussi.
Lesquelles, par exemple ?
Loïc Perron, principalement, puisqu'il a 3 transats anglaises en solitaire, 2 en multi, 1 en mono. Il a malheureusement pour lui pas gagné le Vendée Globe ni gagné le Figaro, mais il en a toutes les capacités. C'est aussi quelqu'un que j'apprécie dans la démarche, dans le comportement de tous les jours, qui est resté très humble et agréable. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
Qu'est-ce qui justement vous manque? La Barcelona, par exemple, c'est une course, c'est une transat
Il me manque toutes celles que j'ai courues et pas gagnées. Ça fait beaucoup. À un moment, il y avait un de mes camarades de jeu qui disait une course à la voile, c'est un truc qui part d'un point X et qui va à un point Y et qui se fait à la voile et à la fin, c'est des joyeux qui gagnent. Il était très gentil avec moi, mais il avait pas tout le temps raison, heureusement.
Il y en a beaucoup qui disent, c'est ce qu'on dit un peu dans le milieu, que lorsque Desjoyeaux est au départ, il reste 2 places sur le podium. Vous l'avez déjà entendu, celle-ci.
Oui, celle-là aussi, je l'ai entendu. Oui, c'est sympa.
C'est un peu vrai quand même.
C'est parfois vrai, mais pas tout le temps, malheureusement. Moi, j'aimerais bien que ce soit tout le temps vrai.
On a parlé, Michel Desjoyeaux, juste maintenant, un petit peu de la concurrence et de toute l'estime que vous avez pour Loïc Perron. Il y a un sacré niveau, justement, au niveau course au large. J'ai presque envie de dire en ce moment, mais ça fait un petit moment que ça dure, avec des Jean-Pierre Dick, qui vient de gagner du reste la Jacques Vabre. ça se bouscule. Vous l'appréhendez comment, cette concurrence? C'est plutôt sain et c'est bien, ça va faire progresser un peu la course.
Il y a un vieux proverbe qui dit « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Donc s'il n'y avait pas de concurrence, s'il n'y avait pas de renouvellement des marins, des bateaux et des enjeux, on n'aurait pas plaisir, on n'aurait aucun intérêt à gagner, on ne serait pas méritant du tout. Donc c'est ça aussi qui est sympa, c'est de voir que ça bouge, qu'il y a des petits jeunes qui arrivent, notamment sur le circuit Figaro, et ça pousse fort. Certains arrivent à transformer l'essai en montant en gamme, même si c'est peut-être un petit peu difficile en ce moment, mais je crois que ça l'a toujours été. En tout cas, on a un superbe sport qui reste très sain, qui est vraiment nourri de beaucoup de rêves pour les terriens et qui est de ce point de vue, grâce à ça, très porteur pour notre milieu. À nous de savoir s'en servir, à nous de savoir justement exploiter cet enthousiasme, sachant que déjà nous on s'éclate à faire ce que l'on fait, et si en plus autour de nous et avec nous il y a des gens qui nous suivent, qui nous accompagnent et que le milieu se régénère, c'est parfait.
On a un peu l'impression, Michel Desjoyeaux, qu'il y a beaucoup de Français dans cette course au large. Il y en a énormément. Ça vient de quoi?
Je pense que c'est un peu culturel. Faut pas que ça en soit une fatalité ni un inconvénient. On va pas être chauvin, mais c'est un peu une force chez nous. Ce qu'il faut voir, c'est que on est tous quelque part des enfants d'Éric Tabarly, qui a gagné la Transat anglaise en, alors je vais dire des conneries peut-être, mais 72 et 76, je crois. 68 et 76. Et c'est un peu, entre autres, toute cette dynamique-là qui a généré toute l'école solitaire en France. Quand chez les anglo-saxons, ou peut-être chez vous les Suisses, c'est un peu plus la voile du yachting, c'est-à-dire on navigue dans la journée et le soir on se retrouve en blazer au yacht club. C'est pas trop la culture française, c'est pas qu'on n'aime pas ça, mais c'est pas trop comme ça qu'on fonctionne. Et que du coup, on est allé vers ce qui nous tendait un peu les bras et ce qui nous servait un peu de joli objet dans les vitrines. Et je crois que c'est ça, c'est un peu ça la culture. Alors après, on n'est pas non plus mauvais dans d'autres disciplines. Il y a quand même pas mal de médailles aux Jeux Olympiques qui sont glanées par les Français sur des supports qui sont a priori pas spécifiquement dans la culture française, mais qui ont été médailles qui ont été glanées par le travail et par le dynamisme des clubs, notamment de toute la structure associative qu'il y a autour des clubs de voile. Et c'est tout ce melting pot qui est très intéressant. Il se trouve que géographiquement on a quand même de la chance, c'est qu'on a un territoire qui est quand même bordé d'énormément de côtes avec des mers et des enjeux assez différents. C'est évident que quand vous naviguez en Méditerranée, c'est pas les mêmes plans d'eau que quand vous naviguez en Bretagne Nord ou dans le golfe du Morbihan. C'est à chaque fois des plans d'eau différents et des spécificités qu'il faut être capable d'appréhender. Et c'est ce qui fait la richesse de nos marins.
Alors je dirais que le plus surprenant là au milieu, c'est les petits Suisses, parce que nous on a carrément pas de mer, on a que des lacs comme vous le savez. Puis on arrive quand même à tirer un peu notre épingle du jeu avec des navigateurs de qualité. Là par exemple justement, comment est-ce que vous l'expliquez qu'on arrive quand même à avoir des gens comme Dominique Vaffe, comme Steve Ravussin, comme Bernard Stamm? Tout le mérite évidemment leur revient si on suit un petit peu ce que vous dites.
À la limite c'est même plus du mérite, parce que quand on est passionné par ce qu'on fait, on n'a pas l'impression d'en souffrir. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. C'est que le lac Léman, c'est un plan d'eau spécifique qu'il faut aussi être capable de dompter. Et ça reste les mêmes lois physiques. Ça reste de l'eau. Elle est douce, c'est pas mal aussi. Ça nous change de l'eau salée. C'est de l'eau douce, c'est du vent, c'est des voiles, c'est la même technologie, c'est les mêmes lois physiques. C'est pas tout à fait le même environnement, mais rien n'empêche non plus aux marins d'eau de mer de venir sur l'eau douce et aux marins d'eau douce d'aller s'expérimenter en mer.
Ça reste intéressant, le lac Léman. On a toujours peine à croire, Michel Desjoyeaux, lorsqu'on est, on l'a dit plusieurs fois, certainement l'un des meilleurs, ou peut-être tout simplement le meilleur marin du monde. On a toujours un petit peu de peine à croire que le lac Léman représente un intérêt et qu'on apprenne finalement quelque chose et qu'on en retire une certaine satisfaction de gagner des régates.
Satisfaction parce que les bateaux sont très intéressants, parce que le niveau est élevé et très homogène, ce qui fait que les régates sont difficiles. Je pense que si vous m'aviez posé la question au lendemain du premier Grand Prix de cette saison, où on a fait huitième et où j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait rien.
D'être un débutant
et qu'il n'y avait rien qui se passait comme on voulait. On était complètement perdus dans les schémas. Ce que j'apprécie plus de voir autour de moi, j'aurais été à 100 lieues d'imaginer de pouvoir gagner le Vulcain Trophy 2011. Pourtant, on a réussi à le faire parce qu'on a bossé aussi. On a passé beaucoup de temps sur l'eau en début de saison, tout seul à s'entraîner et puis dès qu'on pouvait s'entraîner contre les autres. Et puis petit à petit, comme on n'est pas couillon et que j'avais un super équipage, on a progressé et puis on a été capable de se battre et de relever le défi d'être dans le coup sur la globalité. On n'a pas gagné toutes les épreuves, mais on a quand même gagné, je crois, 3 sur 7. On a même réussi à se faire souffler le bol d'or, pourtant on avait réussi à être en tête un bon moment et qui aurait pu nous servir pour aller jusqu'au bout. Donc on n'a même pas été foutu de gagner la seule course au large du lac. C'est quand même un con pour les marins qui arrivent du large.
Oui, mais c'est parce que vous n'étiez pas seul sur le bateau.
Voilà, c'est ça, j'étais mal entouré. Vous leur direz.
Faudrait faire un vol d'or en solitaire peut-être l'année prochaine.
C'est pourquoi pas, ça me déplairait pas. Mais peut-être pas sur un décision 35, ça serait un peu casse-gueule. Mais ouais, c'est aussi voilà se remettre en question. Et moi, j'ai pas non plus fait que du solitaire. Les gens me connaissent à travers ça, mais j'en ai fait somme toute assez peu. Hein. J'ai fait beaucoup de courses en équipage, comme équipier pendant très longtemps, comme skipper aussi.
Équipier d'Éric Tabarly à vos débuts, hein. C'est pas
oui,
rien non plus. On en a parlé tout à l'heure.
Un peu après mes débuts quand même. J'avais déjà fait un peu de voile avant.
Mais relativement tôt dans votre.
Mais oui, j'avais 20 ans. Ouais.
C'est
ouais.
Ça.
Quand on aime, on a toujours 20 ans.
C'est ça. Comment est-ce qu'il, juste comme ça, petite parenthèse sur Éric Tabarly, comment est-ce qu'il était? Parce qu'on le disait évidemment un peu spécial, un peu le vrai marin, c'est-à-dire pas forcément
Pascal,
le gars
vous,
qui en avait envie d'aller taper une grande table dans le dos comme ça sans le connaître.
Pour vous, un vrai marin et...
Il avait un
quelque
peu la
chose d'un peu spécial, c'est
il
ça
avait un peu comme ça renfermé, quelqu'un qu'il fallait,
en fait,
on va dire, connaître. Hein,
ouais, il avait pas. Le problème, c'est que il a fait ça par passion toute sa vie, et qu'il y a un moment, il voyait pas non plus pourquoi il allait devenir un homme public. Il avait une vie privée, il y tenait, et il n'était pas à se montrer dans les émissions People de la télé. C'était pas le style et il en éprouvait vraiment pas le besoin, et qu'il fallait le prendre comme il était et pas croire que ça allait devenir du jour au lendemain un objet de courtoisie et un animal un peu fantasque qu'on sort du zoo pour le montrer à tout le monde. Du coup, il se refermait aussi pour se protéger, je pense.
Vous avez beaucoup appris à ses côtés, de ce que vous savez, de ce que vous connaissez aujourd'hui. Vous lui devez
c'est
beaucoup.
C'est sûr que je lui dois beaucoup, pas tant sur le job, mais aussi sur la notoriété. Parce que forcément, quand on est jeune marin et qu'on écrit en lettres gras dans son CV, naviguer avec Éric Tabarly, forcément ça rapporte des points.
Ça le fait, comme on
ça
dit.
Ça le fait, ça joue bien. Mais on a aussi beaucoup eu l'occasion de beaucoup apprendre grâce aux navigations qu'on a pu faire avec lui. Je dis on parce qu'on a été plusieurs à en bénéficier. Ça, c'était aussi une grande chance des gros bateaux menés en équipage. Hein. Sur le Tour du Monde, on était 18 à bord. Ça veut dire qu'il y a 17 équipiers qui ont la chance d'embarquer avec Eric. Et pas seulement d'embarquer avec Eric, mais aussi d'embarquer sur un Tour du Monde, école très formatrice. Vous parliez tout à l'heure de Dominique Vavre, il y en a plein d'autres autour de Pierre Fellmann, notamment ici en Suisse, qui ont eu cet avantage-là. Et forcément, c'est une école accélérée, c'est de la formation intensive dans des contrées où justement on apprend deux fois plus vite parce que les conditions sont deux fois pires.
On a parlé beaucoup évidemment de courses en solitaire. Aujourd'hui, votre préférence, parce que ce qui fait aussi la marque de fabrique Michel Desjoyaux, c'est que vous arrivez à évoluer aussi bien sur du mono que sur du multi. Aujourd'hui, vous revenez au multi. Une page s'est tournée?
Non, une page s'est pas tournée parce que justement, je pense que toute ma formation ou ma carrière, si l'on peut dire, justement était basée sur le jeu des différences et d'exploiter les différences plutôt que de lutter contre. Et donc j'ai beaucoup navigué en petit kata, j'ai beaucoup navigué en gros multi, en gros mono, en petit mono, j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du mini transat, j'ai fait du Figaro, j'ai fait de la course en équipage, j'ai fait du Tour de France à la voile, j'ai fait des courses de l'Europe en grand multi, des tours du monde en équipage également. Et à chaque fois c'est formateur et c'est un peu la boule de neige qui fait tache d'huile parce que tout simplement quand vous naviguez sur un petit monocoque, monotype par exemple comme sur la solitaire du Figaro, le Tour de France à la voile et que vous êtes obligé d'aller trifouiller les réglages au millimètre près pour vraiment aller chercher les centièmes de nœud. Eh ben vous allez acquérir une démarche, une volonté d'aller exploiter tous ces pouillèmes-là. Par contre, vous avez le temps de regarder le temps passer parce que vous allez à 5, 6 nœuds, 7 nœuds peut-être des fois, un peu plus au portant, mais guère plus. Donc vous avez le temps de regarder un déroulement stratégique, de voir évoluer la météo, de prendre le temps de décider. À l'inverse, quand vous basculez sur un multi et que le bateau il marche à 20, 25, 30 nœuds, faut décider vite parce que le temps passe très vite. Donc la stratégie se déroule aussi à vitesse grand V. Et quand vous allez soigner un réglage, au début, vous allez améliorer le réglage pour un nœud, pas pour un centième de nœud. Par contre, si vous transposez de l'un à l'autre, être capable de réfléchir vite, donc de décider vite sur un bateau qui va lentement, ça permet d'avoir du temps pour faire autre chose. À l'inverse, être capable de bien régler un multi, c'est des pouillèmes qu'il va falloir aller chercher, et on va vers le haut niveau, c'est-à-dire que le niveau général s'augmente. Donc il faut être de plus en plus fort dans tous les domaines. Et justement, passer d'un support à l'autre est très enrichissant. Petit, grand, multi, mono. Alors là, maintenant, il faut en plus jouer avec les ailes rigides et les voiles souples. Et ben voilà, c'est toute la beauté de ce sport mécanique.
Il y a aussi, pendant qu'on y est, tout ce qui est prototype. Aujourd'hui, on parle beaucoup de monotypie. Alors ça, c'est évidemment, ben, c'est valable pour le D35. Hein. On a parlé du Vulcain. On va peut-être parler un tout petit peu plus tard des modes 70. C'est ce qui anime aujourd'hui un petit peu... Peut-être en tout cas une des suites pour vous. Vous paraissez bien aimé, enfin en tout cas être assez pour justement cette monotypie qu'on parte tous à chance égale. C'est quelque chose qui
moi,
vous plaît, c'est l'homme qui
tout
fait
me va,
la
tout
différence.
Me va, la prototypie, la monotypie, tout ça, ça me va. Par contre, à partir du moment où on fait de la monotypie, on la fait bien et on va le plus loin possible dans la démarche. Et donc, on encourage, je fais partie des quelques skippers qui encouragent... Le mode SA, justement, a forcé la monotypie. On a accepté la monotypie sur les voiles. Là, on n'a encore pas remis en cause la monotypie sur les cordages. C'est-à-dire que même la couleur des cordages est la même sur tous les bateaux. On en est là, quoi. Justement, parce que à partir du moment où tout le monde respecte cette monotypie-là, il n'y a pas de discussion sur le matériel et on fait plus que de la voile, on fait plus que du sport. Par contre, faut pas oublier qu'en faisant ça, on fige l'état de l'art architectural, notamment technologique, à un instant donné. C'est-à-dire qu'on ne progressera plus sur ces bateaux tant qu'on n'aura pas décidé d'ouvrir certaines choses.
Michel Desjoyeaux, ces modes 70 qui sont un peu la nouvelle génération, qui sortent maintenant. Hein,
mais ils sont sortis parce que l'Orma s'est cassé la gueule. Alors après, on peut toujours refaire le film et se dire « Oui, mais l'Orma s'est cassé la gueule, donc c'est normal qu'elle se soit cassée la gueule, donc il faut faire autre chose à la place. »
Mais ils vont avoir une durée de vie de combien de temps, ces bateaux?
Ils auront une durée de vie, comme les décisions 35, ils auront une durée de vie du circuit, de la viabilité économique, du dispositif. Faut pas se tromper. Je pense que ceux qui ont décrié l'Orma et qui l'ont poussé à s'écrouler, ils ne voyaient pas la réalité économique des choses. Et par contre, ils ont malheureusement été plus entendus que ceux qui voyaient la réalité économique. Moi, pendant 5 ans sous les couleurs de Géant, tous les ans, on a été, bénéficiaires en termes de retombées par rapport à l'investissement que ça représentait. Donc ça, c'est bénéficiaire en termes chiffrés, mais je vous parle pas des dizaines de collaborateurs qu'on a fait naviguer à bord et de l'image qui en est restée pour ces gens-là et qui, ça, n'est pas comptabilisé en termes de bilan financier des opérations. Et je pense qu'il y a un truc qui est assez incroyable et qui me peine aujourd'hui, principalement en France, mais je pense que c'est un petit peu la même chose dans d'autres situations et peut-être en Suisse, mais je connais pas assez le milieu suisse, c'est qu'en fait, chaque série veut avoir la plus belle place en bas de la plage, au soleil. Et donc, quitte à taper sur les autres systèmes et à les détruire. Or, justement, on a tous intérêt à ce que tout vive. Quand vous voyez une Transat Jacques Vabre avec 15 monos 60 pieds IMOCA et une trentaine de classes 40, eh ben, ça n'a pas la même gueule que quand il y avait tout le bassin qui était plein comme un œuf et qu'on savait plus où mettre les bateaux tellement il y en avait, parce que justement, il y avait plein de séries différentes. Et pour avoir fait des Routes du Rhum et des Transat anglaises en monocoque et en multicoque, il n'y a pas photo, le multicoque est beaucoup plus dur que le monocoque. Donc c'est normal que ça prenne là une très belle place au soleil, que ce soit médiatisé, que ce soit valorisé, parce que c'est beaucoup plus dur sportivement, techniquement. Et pourtant, aujourd'hui, cette classe-là, elle s'est cassée la gueule. C'était l'Orma, c'était des bateaux absolument magiques, magnifiques, qui étaient des vrais 4x4 à aller sur des circuits de Formule 1, puisqu'avec les mêmes bateaux, on faisait des choses très différentes. On faisait des transats en solo, mais à l'autre bout de la gamme des compétitions qu'on pouvait faire, on faisait des courses en équipage à 11 équipiers sur les bateaux. C'était vraiment magique. Moi, j'ai vraiment pris mon pied pendant toutes ces années-là. Et les gens qui nous ont critiqués n'étaient jamais venus voir nos bateaux, n'avaient jamais vécu dessus, n'avaient pas vu tout ce que c'était à l'intérieur. Je suis un peu nostalgique de cette époque-là. Je suis surtout très remonté contre les gens qui ont décrié le système, alors qu'ils ne le connaissaient pas et qu'ils ne le comprenaient pas, pour parfois d'ailleurs faire pire et faire écrouler d'autres systèmes. Pour moi, ces gens-là étaient un peu des pyromanes qui essayaient d'être pompiers et ils se sont pris les pieds dans le tapis, ils sont restés pyromanes. Ils se reconnaîtront.
Ouais.
mais voilà, c'était... Et justement, par exemple, qui sait que sur un circuit de Formule 1, sur les 3 jours d'une épreuve de Formule 1, entre les essais libres et les essais obligatoires des F1, il y a des Porsche qui tournent, il y a des Formule 3 et des Formule 3000, il y a plein de trucs. Et tous sont là parce qu'il y a l'ensemble du dispositif qui est là. Certes, c'est le Formule 1 que tout le monde voit parce que c'est ce qui coûte le plus cher, donc c'est normal que ce soit le plus rentable, le plus rentabilisé en tout cas, et rentable je l'espère. Mais s'il n'y avait pas la Formule 1, il n'y aurait pas toutes les autres petites catégories. Et pourtant, ces gens-là aussi se battent pour avoir leur budget, se battent pour gagner des places, se battent pour être en haut de l'affiche de leur circuit. Mais ils ont bien l'intelligence, eux, de pas vouloir détrôner le haut du tableau, quoi. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce côté-là.
Michel Desjoyeaux, on n'a pas parlé de la Coupe de l'Amérique. Rapidement, votre avis par rapport à cette Coupe qui intéresse justement Loïc Perron. Vous en avez parlé tout à l'heure, qui va présenter un défi à l'occasion de la prochaine. Est-ce que vous avez déjà été approché ou c'est une catégorie qui vous intéresse tout simplement pas finalement?
J'ai déjà été approché même du temps des monocoques. On n'a pas attendu d'être en multicoque pour venir me demander mon avis.
Qui vous avez approché à l'époque?
Je garderai mes sources. Puisque si ça s'est pas fait, ça n'a pas d'intérêt d'être divulgué. Mais oui, bien sûr que ça m'intéresse parce que c'est de la technologie, parce que c'est du haut niveau, parce qu'il y a un peu plus de moyens encore que ce qu'on a dans nos circuits. Et donc ça permet, pour quelqu'un qui est passionné de technologie, d'avoir plus de possibilités de s'éclater et d'aller au bout de certaines réflexions qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'approfondir. Je pense qu'il y a juste quelque chose qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que justement, enfin, ces gens-là ont compris l'intérêt du multicoque. Et j'aurais tendance à dire, ils ont juste perdu 23 ans. Hein, parce que si vous regardez la dernière coupe où un multicoque avait pris le départ, c'était Stars and Stripes contre le géant New Zealand Endeavour, le grand monocoque de près de 50 mètres de long, qui a fini sur un rond-point en Nouvelle-Zélande. Stars and Stripes, je crois, est ici en Suisse, malheureusement pas à l'eau, mais c'était déjà un catamaran, c'était déjà un bateau à aile rigide et il avait déjà gagné. Donc aujourd'hui, quand on entend parfois les bateaux de la Coupe de l'Amérique, c'est génial, c'est de l'innovation, c'est beau, c'est magnifique. Ben regardez les gars, regardez juste derrière vous, ça y était déjà. On n'a rien inventé. Et Stars and Stripes, 18 mètres de long avec déjà une aile rigide, n'était jamais que la copie à l'échelle 3 des classes C, qui sont eux aussi avec des ailes rigides, eux aussi des catamarans, mais qui ne font que 7 mètres 50 et qui sont avec des ailes rigides depuis les années 80, 78, 80 à peu près. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous ces gens-là sont shanghaïés par les équipes de la Coupe de l'Amérique parce que c'est eux qui ont le plus de culture en ailes rigides. Il n'y a personne d'autre qui a autant joué avec ça. Et je pense que c'est une reconnaissance de l'intérêt du multicoque, pas seulement en termes de beauté et de magie de faire tenir une libellule en équilibre, mais aussi parce que ça va vite, c'est plus spectaculaire, c'est plus facile à visualiser en plus. Si vous regardez les images des AC-45 qui sont pas encore aussi majestueux que le seront les AC-72, vous voyez déjà tout le potentiel qui est là pour faire de la visualisation, pour faire comprendre au grand public ce qu'est la voile. Alors c'est sûr que l'aile rigide a un atout technologique et pas forcément plus simple à faire comprendre comment marche un bateau à voile. Parce que quand vous êtes dans un petit optimiste à apprendre la voile et que vous prenez la baume dans la figure parce que vous voyez que la voile se retourne, avec une aile ça va être un petit peu plus difficile à comprendre. Mais bon, voilà, pour moi la Coupe de l'Amérique c'est le plus haut morceau de ce sport mécanique. Et donc pour moi c'est tout à fait naturel que ce soit avec des multicoques parce que c'est ce qui est le plus compliqué à maîtriser. Et avec des ailes rigides parce que c'est aujourd'hui ce qu'on connaît comme étant le meilleur.
Mais on verra une fois sur un bateau de la Coupe de l'Amérique.
Oui, ça fait partie des choses qui m'intéressent parce qu'il y a tous les ingrédients que j'aime.
On a gardé le gros morceau pour le milieu de l'émission. Hein. L'une des courses, évidemment, qui vous a rendu célèbre, eh bien, c'est le Vendée. Deux victoires à votre actif, on l'a dit, 2001 et 2008. Est-ce que pour le prochain Vendée, qui va démarrer l'année prochaine, est-ce qu'on peut dire jamais 203 ou alors 27 AC, 37 trop? Qu'est-ce qu'il faut dire?
En fait, quand j'ai fait celui en 2001, en 2000-2001...
Vous êtes dit plus jamais?
Non, justement. Je m'étais déjà dit j'y retournerai, mais pas tout de suite, parce que avant d'aller faire le Vendée, je voulais aller faire du multi, et au retour du Vendée, je voulais aller faire du multi encore plus. Non pas contre le mono, mais parce que c'est une de mes autres passions. Et donc je suis allé faire du multi et je savais que je reviendrais sur le Vendée Globe. Je savais pas si c'était en 2008 ou en 2012, mais je savais que j'y reviendrais. J'ai eu la chance avec Foncia de pouvoir tout de suite rebondir dès la fin de Géant et faire le bateau que je voulais dans un timing qui se prêtait bien à une optimisation, une fiabilisation du bateau. Et à vraiment arriver au départ du Vendée Globe 2008 avec une rage de vaincre qui, je pense, a été assez visible de l'extérieur.
Ça suffit visiblement.
Mais je crois que typiquement, s'il y a une course où il faut vraiment avoir une motivation exacerbée, c'est celle-là. Sinon, c'est une catastrophe d'aller faire un Vendée Globe pour juste aller au boulot.
Pour participer, on peut pas.
Je peux pas le concevoir, je peux pas l'imaginer comme ça. C'est quelque chose de trop dur si on n'a pas envie. Par contre, c'est trop beau quand on a vraiment envie et qu'on s'éclate. Et c'est la chance que j'ai eue, surtout dans ces deux éditions.
Alors c'est jamais 203 ou 27 AC, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question.
Non, je crois que c'est plutôt de, si vous me laissez pas finir, Michel. C'est plutôt de, je me suis très bien éclaté dans les deux et j'ai pas envie d'être déçu sur une troisième opération. Aujourd'hui, j'ai pas cette motivation-là et je pense que pas que je l'aurais d'ici novembre 2012 puisqu'il aurait fallu déjà que j'ai un bateau dans les pattes. un bateau neuf, que j'ai eu le temps de l'apprendre à le connaître, de le fiabiliser, de l'optimiser. Et pour le moment, je ne suis pas du tout dans ce planning-là. Si ça avait été ma volonté, je pense que j'en aurais eu l'opportunité grâce à Foncia, qui m'aurait très certainement suivi sur un projet comme ça. On s'est mis d'accord sur un projet de multicoque. C'est un mode 70 et ça va nous emmener jusqu'en 2014. Et ça me va très bien. Et sinon, je ne serais pas sur ce programme-là. Si j'avais eu envie de refaire un Vendée, j'en aurais refait un.
84 jours sur un bateau tout seul. Michel, qu'est-ce qui est dur? Tout?
Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. C'est moi, je me suis vraiment éclaté, quoi. Je me suis vraiment marré pendant 3 mois. On arrive à rire tout seul.
Ah, mais oui. Vous aviez emmené des cassettes de Nicolas Canteloup.
J'avais de quoi me distraire pour rigoler. Je me suis vraiment amusé. Et bon, c'est sûr qu'il y a des moments un petit peu plus durs, comme le demi-tour, la première nuit de après le départ, mais qui pour moi ont été juste un.
Vous êtes parti avec quand même pratiquement dire 40 heures.
Je vous laisse pas dire ça. Je suis parti comme les autres. La ligne de départ, elle était ouverte le dimanche après-midi, et j'ai eu des événements de course qui ont fait que j'ai dû revenir au port pour repartir. Mais je suis parti comme les autres le dimanche.
Mais vous avez quand même alors remonté 40 heures de retard, on peut le dire, comme ça.
De retard dû à mon escale forcée qui n'était pas dans le programme. Je n'ai pas pris le départ de la course 40 heures après.
C'est ça.
Je tiens à le préciser, parce que sinon ça relève encore 40 heures à mon temps de course. Or, mon temps de tour du monde, il est de 40 heures de moins, mais mon temps de course, il est de 84 jours. Soyons précis. Je sais que vous aimez ça en Suisse. Mais voilà, même ce demi-tour forcé pour des problèmes mécaniques qui était une conséquence d'un autre problème, pour moi j'ai juste vécu ça comme un fait de course, quoi. Voilà, il y a ça, il y a tel problème, la meilleure solution c'est de rentrer au port, de réparer et de repartir en mer.
Vous avez parlé de moments durs, de passages difficiles, lesquels les bons, évidemment, les mers du Sud, tout ça, ça reste quand même des mers, non? C'était pas là?
Non, les mers du Sud, c'est pas forcément... moi, je les ai vraiment pas vécues. J'avais une très forte confiance dans mon bateau, qui m'a aussi permis d'en connaître les limites et de très bien l'exploiter, et de me permettre d'aller parfois beaucoup plus vite que mes camarades de jeu, qui étaient peut-être un petit peu dans la retenue. Bon, il se trouve que le fait d'avoir un peu de retard après mon escale faisait que j'avais pas d'autre solution que de cravacher. On refera pas l'histoire, on refera pas cette course-là. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais navigué avec tous les autres bateaux. Ce que je sais juste, c'est que le lendemain du départ, quand j'ai fait demi-tour, j'avais déjà une avance confortable sur les concurrents autour de moi, qui étaient tous derrière moi, et ça montrait bien qu'il y avait une détermination qui n'allait pas s'arrêter comme ça pour juste un petit problème d'eau et
Michel, qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur que les autres?
Je suis pas meilleur, c'est que quand...
Non, parce qu'on dit que la chance, ça arrive qu'une fois, mais que dépasser une fois, c'est le talent,
Oui, quand la chance se renouvelle trop souvent, on appelle ça le talent.
C'est ça.
Alors, je dois avoir beaucoup de chance. je crois que
Là, il y a quand même...
C'est pas moi qui peux dire que je suis meilleur que les autres.
Le secret du Vendée de Michel Desjoyeaux,
d'avoir beaucoup travaillé, de s'être beaucoup investi dans la technologie. Je pense qu'on est dans un sport mécanique et on ne peut pas être juste des sportifs. À regarder le vent et ce qui se passe, on est obligé d'intégrer totalement la construction du bateau, sa conception. Et quand on fait tout ça, on a le mode d'emploi de son bateau derrière. Et je pense que c'est très important, surtout sur un Vendée Globe, puisqu'on n'a pas le choix. Si on s'arrête, on est foutu, la course est finie. Sauf quand on s'arrête dans le port de départ pendant 10 jours. Ce qui m'a sauvé cette édition-là. Hein. Mais voilà, faut aussi avoir une petite bonne étoile, avoir une confiance en soi sans que ce soit exacerbé, parce qu'il faut garder les pieds sur terre quand même quand on est en mer. Et c'est tous ces ingrédients-là qui font que si on a bien bossé et qu'on n'est pas complètement couillon, ben on doit être capable de tirer son épingle du jeu. Mais il faut surtout beaucoup d'humilité, il faut foncer, il faut être prêt à foncer et à se faire mal. Mais une fois qu'on est vraiment dans ce schéma moral-là, ça paraît facile. Et moi, je me suis éclaté pendant 3 mois.
On va s'intéresser peut-être un petit peu plus à l'homme, au personnage. On va laisser le bateau un petit peu de côté. On vous appelle le professeur. C'est l'un de vos surnoms. Vous en avez plusieurs. L'autre, c'est Mitch Dej. Enfin, il y a Petit Dej. Il y en a beaucoup. Le professeur, ça vient d'où, en fait?
Le professeur, c'est un copain qui...
Ça vous va assez bien.
Merci,
je peux me permettre.
C'est le même surnom qu'un petit frisé qui faisait de la Formule 1 il y a quelques dizaines d'années.
qui se reconnaîtra.
Et qui se reconnaîtra aussi, voilà. Je suis sûr, ça vient de Damien Grimont, qui a gagné la Mini Transat l'année où moi je l'ai faite en 91, et qui après est venu avec nous jouer sur le circuit Figaro. Moi j'avais déjà fait 2 ans et j'étais déjà assez à l'aise en solitaire, ça me plaisait déjà bien. Et je crois que ça doit être en 92 ou 95. Moi j'étais au départ d'une course d'une solitaire du Figaro, donc là on est pendant une semaine dans le port de départ. Et moi, j'étais bien à l'aise, le bateau était prêt, j'avais un préparateur qui s'occupait de tout, en qui j'avais totalement confiance. Et donc, pendant la semaine avant le départ, au lieu de m'occuper de mon bateau ou d'aller faire du footing ou d'aller m'enfermer dans ma chambre d'hôtel, bah, je suis allé discuter avec les autres concurrents. À l'époque, je me souviens, il y avait Dominique Vave, il y avait Damien Crémon, il y en avait d'autres. Et j'ai passé une semaine à parler de réglage de bateau, de réglage de voile, de réglage de pilote, de façon de faire la nave, discuter de ce qu'on faisait au quotidien. Et forcément, bah, dans l'eau, il y avait des gens qui ont pris pas mal de conseils au passage, dont Damien, et qui m'a baptisé le prof, mais plutôt pour l'aspect celui qui a plaisir à transmettre son savoir. Hein, c'est comme ça que je le prends. Alors des fois, on me le renvoie à la figure en me disant que je suis celui qui donne des leçons, le donneur de leçons. Je pense que ceux qui...
Remarquez que vous avez le niveau en même temps. Hein. On peut quand même
oui,
le préciser.
Oui, ça c'est pour la responsabilité de vos propos. Je pense que ceux qui me reconnaissent comme donneur de leçons sont ceux qui ne me connaissent pas.
On vous dit justement comme ça assez, vous aussi on a parlé tout à l'heure d'Éric Tabarly, on va pas forcément comparer, on vous dit aussi facilement assez bourru comme ça, un peu ours, un peu réservé.
J'aime pas les cons, on va dire.
Voilà, mais vous aimez pas non plus les mondanités, tout ça, c'est vrai qu'on vous voit finalement par rapport encore une fois à votre palmarès et à beaucoup d'autres, on vous voit assez peu dans tout ce qui est people, dans beaucoup d'émissions, enfin vous êtes plutôt discret, ça
vous branche
pas.
Vous voulez dire que je suis plus à l'école Tabarly qu'à l'école Kersauzon?
Voilà,
par exemple, pour ne citer que deux noms.
Voilà.
Oui, parce que bah, je suis aussi quelqu'un qui... C'est assez étonnant, vous allez peut-être pas me croire, mais jusqu'à 18-20 ans, quand on m'adressait la parole, je devenais tout rouge, c'est-à-dire que j'étais très timide.
Là, ça va mieux, je confirme.
Maintenant, ça va
hein,
beaucoup mieux.
On est en radio.
Et aussi, bah, en fait, ce sport et cette activité, certes avec beaucoup de navigation solitaire, mais pas que ça, m'a aussi permis de m'éclater et de m'affirmer dans quelque chose dans lequel j'étais à l'aise. Et justement, de pas de vaincre, j'ai pas fait ça comme thérapie contre ma timidité, je m'en suis jamais rendu compte, j'ai jamais fait pour ça. Mais voilà, ça m'a aussi permis d'acquérir une confiance en soi à travers quelque chose qui était reconnu et qui l'est toujours, qui me permet aujourd'hui bah voilà, d'avoir une vie assez...
On vit bien comme... parce qu'on parle évidemment beaucoup du tennis, hein, de la Formule 1, de ces sports. Quand on est un des meilleurs navigateurs du monde, financièrement, on vit bien, c'est confortable.
Bah, je sais pas ce que c'est que le confort. Coluche disait les pauvres n'ont pas de problème d'argent. Je suis pas imposé sur la fortune, j'ai encore de la marge. Mes enfants ont à bouffer tous les jours dans leur assiette, je trouve que c'est déjà pas mal. Si j'avais fait ce sport pour gagner de l'argent, je pense qu'effectivement j'aurais fait du golf ou du tennis, mais pas de la voile.
On est payé, on a un salaire, on a des primes, ça se passe comme ça.
Oui, un peu de tout. Moi, je cours pas après l'argent. Et la seule fois où j'ai essayé de négocier avec mon officier payeur des primes de match, j'en ai pas ramené une seule. Donc après, je me suis dit stop, tu changes de méthode parce que là, ça marche pas. T'es en train de te prendre les pieds dans le tapis à vouloir essayer de récupérer des sous alors que c'est pas ça l'objectif. C'est de faire de la voile, c'est de bien faire ça. Et puis on verra plus tard. Maintenant, bah oui, j'ai pas honte de mon capital. Parce que je suis aussi allé le chercher à la force du poignet. J'ai pas attendu 50 ans pour m'acheter une Rolex parce que j'en avais déjà gagné quelques-unes bien avant et à la force du poignet et à la sueur de mon front. Là aujourd'hui, voilà, c'est une Vulcain que j'ai à mon poignet. Et d'ailleurs, toutes les montres que j'ai, je les ai gagnées moi-même. J'ai pas eu besoin d'aller les acheter.
Michel, la voile est une affaire de. C'est important de le préciser. Chez les Desjoyaux, là, la voile est une affaire de famille.
Votre frère. Je suis tombé dedans avant d'être petit, hein. Même Obélix est un enfant de cœur, puisque, bah, en fait, moi, je suis né dans un chantier d'entretien et d'hivernage de bateaux de plaisance. D'ailleurs, quand je viens en Suisse, j'ai plaisir à rentrer dans les ateliers de Philippe Dur, parce que ça me rappelle vraiment les odeurs et l'ambiance de
Port-la-Forêt.
De chez mes parents et de l'atelier bois. C'était vraiment la même chose. Et puis, bah, j'ai grandi dans tout ça, j'ai évolué au milieu de tout ça. Je sais d'ailleurs rien faire d'autre que de la voile. Deux de mes frères ont participé à l'élaboration de CDK Composite, qui est après devenu CDK Technologie. Il y en a un de mes frères est parti dans les avions, mais est resté dans le composite. L'autre est resté patron de CDK jusqu'à son décès récemment. Donc oui, moi j'ai toujours habité au bord de la mer, j'ai toujours habité à Port-la-Forêt ou à la forêt Fouesnant. J'ai pas vraiment envie d'aller ailleurs d'ailleurs.
À part du bateau, quand vous avez du temps de libre, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous utilisez pour autant que vous ayez du temps de libre?
Bah, j'aimerais bien
famille,
avoir du temps libre.
Enfants.
On a trois enfants. Oui,
Ils s'intéressent à la voile? Ils sont motivés?
Non, ils s'intéressent... Alors, ils font du kitesurf au lycée en option, comme d'autres font une troisième langue ou du latin. J'aurais peut-être travaillé à l'école si j'avais eu ça, moi, à l'époque. Parce que j'étais plutôt le cancre assis au fond de la classe et à côté du radiateur à attendre que la sonnerie se déclenche. Maintenant, bah voilà, j'ai aussi, bon, je pense que j'ai pas eu une enfance malheureuse, hein, puisque les débuts, la cour de récréation était le chantier de mes parents, puisque c'est ma mère qui nous faisait l'école quand on était petits, tous, hein, mes six frères et sœurs et moi-même. Et du coup, bah voilà, moi j'ai toujours été imprégné de toute cette ambiance-là. J'ai vu Port La Forêt se construire, j'ai vu l'arrivée des bateaux en composite, j'ai vu l'arrivée de la fibre de carbone, j'ai vu l'arrivée des multicoques. Quand j'étais petit, je fabriquais déjà des ailes en polystyrène. Et ça me paraissait naturel d'aller vers ça, puisque des ailes rigides, hein, déjà, tout petit déjà. Donc on a fait un peu toutes les conneries, et les seuls bateaux qui ont été construits d'ailleurs dans le chantier de mes parents, c'était nos maquettes, c'était nos modèles réduits, parce qu'on n'avait pas les moyens d'en faire des gros comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a juste des cadeaux un peu plus gros que quand on était petit.
Si on revient au hobby, peut-être, justement, vos centres d'intérêt.
Les centres d'intérêt aujourd'hui, en dehors de tout cet univers-là, je dis cet univers-là parce que c'est pas juste la voile, c'est aussi toute la technologie qui y est associée. Moi j'adore la technologie, j'adore comprendre comment sont faits les bateaux, pourquoi ils sont faits et comment ça marche. Ma mère vous la raconterait mieux que moi, mais quand j'étais petit, un jour elle m'a retrouvé debout sur un pied sur un tabouret et ma mère m'a demandé « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui ai répondu « chut, je fais une expérience ». Il fallait que je comprenne comment ça marchait, quoi. Et ça continue de m'animer. Et en dehors de tout cet environnement-là, bah aujourd'hui, je m'occupe de mon jardin, de ma maison. J'essaye de passer de temps en temps un peu de temps avec mes enfants, mais c'est pas facile.
Est-ce que dans votre jardin, Michel, on trouve des roses, des joyaux?
Parce que ça, il faut quand même
nous en donner un. Voilà.
Ah ouais, alors on n'en trouve pas encore des roses, des joyaux dans mon jardin.
Elle ressemble à quoi?
Parce qu'elle est dans un. Il reste pour le moment un rosier qui m'a été offert donc par le créateur de cette rose qui est Michel Adam, qui œuvre à côté de Rennes. Hein, c'est le créateur. Il a mis 7 ans à faire cette nouvelle rose. Et il y a alors une rose Michel Desjoyeaux en Suisse, chez un monsieur qui est admirable, hein, que j'ai rencontré cette année au début de la saison, qui est Laurent Albizati. Et il se trouve que sa femme est passionnée de roses. Elle a vraiment la main verte, parce que pour avoir vu l'état de son jardin, je peux vous dire que c'est tiré à 4 épingles.
Elle est comment? Elles sont quoi? Qu'est-ce qu'elle a de
alors
plus?
Alors cette rose, elle est orange et rose. Et il paraît qu'elles sont très bonnes, mais comme pour le moment je n'ai vu que des rosiers et assez peu de roses, je peux pas vous décrire tous les détails. Et justement, il me reste un rosier à la maison qu'il faut que je plante. D'ailleurs, là, j'aurais déjà dû le faire au début du mois de novembre.
On va vers un commerce, là, ou quand même pas?
Non. Pas moi qui le commercialise, hein. Je ne suis qu'un nom dans cette histoire. C'est le même créateur qui avait fait la rose Louis de Funès, la rose Isabelle Autissier, et j'en passe. Et en fait, moi, je suis juste là pour faire le pot de fleurs, comme pour le coup, c'est vrai. Et c'est lui qui, avec son réseau, s'occupe de la commercialisation, qui m'a permis d'ailleurs d'engager une discussion l'autre jour avec un éleveur, je ne sais pas comment ça se dit, un éleveur de roses au marché du coin, à la forêt. Il m'a dit « Ah tiens, j'ai pas encore votre rose, mais on est en train de la greffer pour la faire grandir, pour la créer, pour pouvoir la vendre. »
Est-ce qu'il y a d'autres produits dérivés, Michel Desjoyeaux, qui existent ou...
J'ai des chaussures, non pas celles que j'ai là au pied, mais avec TBS, on travaille depuis quelques années. Et donc j'ai des chaussures à mon nom. Mais ouais, je suis pas un aficionado de la déclinaison.
On trouvera pas toute une ligne de parfums demain, forcément, les parfumeries Michel Desjoyaux.
Non, ça m'étonnerait. Je préférerais qu'on voit une ligne de bateau, par exemple. Mais on vous en dira un peu plus un peu plus tard, mais pas tout de suite. Mais vous allez avoir des surprises en Suisse.
Le temps passe extrêmement vite avec vous. On va peut-être sortir des roses, ô combien charmant du reste. On va s'intéresser à notre questionnaire de Proust, qui est un peu, vous allez le voir, revu et corrigé. Le principal trait de votre caractère.
J'ai mauvais caractère, je pense. Je suis très exigeant avec moi-même, donc avec les autres aussi.
Physiquement, si vous pouviez changer quelque chose sur vous, ça serait quoi?
Je referais tout.
Carrément.
Ouais, je garderais le cerveau parce que sinon il n'y a plus rien qui suit.
Cerveau de navigateur.
Ouais, et puis côté corps, ouais, y a du boulot quand même.
La qualité que vous préférez chez les femmes?
La sincérité.
Chez une femme, vous regardez d'abord ses yeux, sa poitrine ou ses fesses?
Bah, ses fesses, faut qu'elles soient de dos, ses yeux, c'est facile, et la poitrine, souvent, c'est masqué, donc on va commencer par les yeux.
Pendant un Vendée, qu'est-ce qui manque le plus, le sexe ou le steak frites?
Les deux, mon capitaine. Et le coup de rouge aussi.
Vous êtes plutôt grande blonde ou petite brune?
Brune tout court.
Des vacances avec Dominique Vavre ou avec Bernard Stamm, si vous pouvez choisir?
Avec Bernard, je pense. On a moins de différence d'âge et nos copines se connaissent bien et s'apprécient.
Votre héros, vous en avez un?
Non.
Vous avez une baguette magique maintenant là, vous en faites quoi?
Je la casse pour m'en débarrasser le plus vite possible.
Votre devise, le matin quand vous vous levez, il y a quelque chose qui vous...
En ce moment, parce que ça peut évoluer, mais en ce moment, ma devise, c'est plutôt pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Le problème, c'est que c'est très simple de faire compliqué, mais c'est très compliqué de faire simple. Je vous laisse méditer.
Michel Desjoyeaux, l'émission s'appelle Le Défi. Quel sera votre prochain défi ?
Ça va être de me lever demain matin avec la même motivation que ce matin.
Merci Michel Desjoyeaux.
Merci d'avoir écouté Direct News, le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, ce que l'on espère, eh bien pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Abonnez-vous à notre flux pour ne manquer aucun des prochains épisodes pour suivre mes entretiens avec différentes personnalités. Retrouvez-nous sur notre site direct-news.info et nos différents médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Direct News, MR en majuscule.